y a une phrase que j'avais entendue prononcer autrefois par l'animateur télé David Letterman, à laquelle je pense souvent. Il avait dit à un jeune Jon Stewart, dont le talk show venait d'être retiré des ondes, « Cancellation does not mean failure ». Et c'est une maxime qui ne s'applique pas qu'au domaine télévisuel. Ne pas réussir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a échoué. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en 1973, il y a donc 50 ans, les défenseurs du patrimoine bâti montréalais et québécois n'ont pas réussi, au terme d'une campagne populaire, médiatique, judiciaire et politique qui a duré de longs mois, à sauver la maison Van Horn, située rue Sherbrooke, à Montréal. Mais ils et elles n'ont pas échoué, bien au contraire. Ce revers-là a donné un nouvel élan aux groupes qui ont à cœur la sauvegarde de notre patrimoine, et ça a amené notamment à la création d'Héritage Montréal. Au 19e siècle, Montréal s'établit comme le grand centre financier du Canada. La ville va compter de plus en plus de grandes fortunes à mesure que le siècle avance et, on s'en doute, ces messieurs avaient de moins en moins envie de vivre dans les secteurs densément peuplés de la ville et ils ne voulaient surtout pas vivre à côté de leurs usines ou près des gares qui les ont rendus riches. Ils vont commencer à migrer vers le flanc sud du Mont-Royal, secteur encore très rural à ce moment-là, qu'on a baptisé plus tard le Golden Square Mile, un espace compris entre la montagne, la rue Dorchester, René Lévesque, le chemin de la Côte-des-Neiges, la rue Guy et l'avenue du Parc. On l'a baptisé Golden Square Mile en raison de l'extraordinaire niveau de richesse qu'on retrouvait dans ce mille carrés. Ces plutocrates, presque exclusivement d'origine britannique, vont se faire construire des demeures somptueuses avec des grands jardins, des vergers et le reste. Un de ceux qui a initié le mouvement, c'est Hugh Allen, originaire d'Écosse, banquier, propriétaire terrien et surtout armateur, considéré comme l'homme le plus riche du Canada à son époque. Il va acheter un domaine qui avait appartenu à Simon McTavish, lui aussi écossais, qui avait accumulé une grosse fortune dans le commerce des fourrures. Dans les années 1860, Allen se fait construire une résidence palatiale qui comptera 72 pièces, dont une salle de bal, parce que, pourquoi pas? Cette demeure baptisée Raven's Crag existe toujours sur l'avenue des Pins. Elle abrite l'Institut de psychiatrie Allen Memorial du CUSUM et c'est une bâtisse absolument magnifique dont l'éclat est malheureusement terni par les expériences secrètes qui y ont été conduites. Si vous avez déjà entendu parler du projet MK Ultra, c'est là que ça s'est déroulé. D'autres bourgeois vont imiter Allen, dont John Hamilton, un natif de Hawkesbury, dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario. Il devait sa fortune à l'industrie du bois et a fait partie de la toute première cohorte de sénateurs canadiens après la Confédération. En 1870, il se fait construire une chic résidence au coin des rues Sherbrooke et Stanley, résidence qui est achetée en 1890 par un nommé William Cornelius Van Horn. Van Horn était né dans l'Illinois aux États-Unis. Dans les années 1880, il est devenu directeur général puis vice-président du Canadian Pacific Railway. Le grand legs de Van Horn, c'est d'avoir poussé avec l'énergie inépuisable qui était la sienne, la construction du premier chemin de fer transcontinental canadien. Chemin de fer qui reliait Montréal à la lointaine Colombie-Britannique à travers les grandes plaines de l'Ouest que se disputaient Canadiens et Américains. Van Horn, qui a également fait construire la gare Windsor, a non seulement gagné assez d'argent au Canadien Pacifique pour s'acheter une résidence cossue, mais il l'a fait agrandir et redécorer par un artiste belge qui s'appelait Édouard Colonna, qui a donné une touche art nouveau à la demeure de 52 pièces. Et on voit les photos à l'intérieur, c'est absolument spectaculaire. C'était littéralement une résidence musée. Parce que Van Horn collectionnait les toiles de grands maîtres, il va donner de son vivant une centaine de tableaux à la Art Association of Montreal, qui a évolué aujourd'hui pour devenir le musée des beaux-arts de Montréal. Il y avait des Goya, des Rubens, des El Greco, des toiles d'impressionnistes notamment, et dans les années 1940, après son décès, sa fille va offrir au musée le reste de sa collection, plusieurs dizaines de tableaux additionnels et des milliers d'objets d'art, dont plusieurs importés de Chine et du Japon. L'époque faste du Golden Square Mile a duré à peu près un demi-siècle, des années 1880 aux années 1930. Il y a eu la crise économique, l'urbanisation avait rattrapé le secteur, lui faisant perdre son côté champêtre, les demeures palatiales du secteur commençaient à montrer leur âge, coûtaient très cher à entretenir, et peut-être plus important encore, c'était des maisons qui avaient été conçues à une époque où les grandes fortunes disposaient d'une équipe, d'un bataillon de majordomes, de servantes, de cuisinières, qui le plus souvent avaient leur quartier dans la résidence pour faire fonctionner la maisonnée. Mais, surtout à partir des années 1920, il devenait de plus en plus difficile de trouver des gens intéressés à mener la vie de domestique. Les descendants de ceux qui avaient fait construire ces maisons du Golden Square Mile, lorsqu'ils et elles ont voulu vendre pour aller, par exemple, vivre à Westmount, ne trouvaient pas grand preneur. Ce qu'ils ont trouvé surtout, c'était des développeurs intéressés à raser le tout et construire du neuf. Tout particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, je vous en ai parlé lors d'épisodes précédents, on est dans une période de renouveau urbain. C'est l'ère du « Oh diable, les vieilles baraques, on veut de la modernité ». Le Golden Square Mile va perdre énormément de ses anciennes résidences chic dans l'indifférence à peu près générale. Au tournant des années 1970, on estime qu'à peine 30% des demeures de la portion du 1000 carrés doré située au nord de la rue Sherbrooke étaient toujours debout. Et heureusement qu'on a eu l'Université McGill qui en a récupéré plusieurs. Mais en 1973, on a voulu bulldozer l'ancienne maison de William Van Horn, coin Sherbrooke et Stanley, dont je vous parlais il y a un instant, pour y construire une tour à bureaux beige et insipide. Et cette démolition va rencontrer une résistance acharnée. La maison avait été mise en vente 6 ans plus tôt, et dès ce moment-là, la Commission de préservation du patrimoine de la Ville de Montréal va recommander qu'on la protège. La commission émettra 2 autres avis similaires par la suite qui seront ignorés. À la mi-avril 1973, la ville accorde un permis de démolition au promoteur qui s'était porté acquéreur de la bâtisse. Toutefois, la pression était forte sur les élus à ce moment-là. Une association nommée Site Extraordinaire voit le jour. On organise des conférences de presse, des campagnes de sensibilisation, les journaux vont s'en mêler. On demande au public d'écrire au maire Jean Drapeau, au ministre des Affaires culturelles du Québec, même au ministre responsable des lieux historiques du Canada, qui s'appelait Jean Chrétien. La Commission des biens culturels du Québec, par la voix de son président Georges-Émile Lapalme, premier titulaire du ministère des Affaires culturelles une décennie plus tôt, va suggérer qu'on protège la maison Van Horn. Mais après avoir penché pour la sauvegarde, le successeur de Lapalme au ministère, François Cloutier, va autoriser la démolition, arguant que la maison Van Horn n'était pas un exemple de la culture québécoise. Il n'a pas voulu expliciter sa remarque, mais on est à une époque où à peu près les seules constructions qu'on considérait comme étant assez intéressantes pour être protégées, c'était ce qui datait du régime français. En septembre, les défenseurs de la maison avaient épuisé tous leurs recours, y compris les recours judiciaires, on a accordé le permis de démolition le 7 septembre et les ouvriers étaient au boulot dès le lendemain, même si c'était un samedi. Dans la presse, on a pu lire « Le progrès a eu raison de l'histoire » avec un H majuscule une fois de plus, alors que l'on a entrepris la démolition de la maison Van Horn. Le promoteur a eu ce qu'il voulait, une bâtisse sans âme de 14 étages est venue prendre la place de cette résidence historique. Mais ça a été une victoire à la Pyrrhus pour les tenants du « progrès », je le mets entre guillemets, parce que la lutte vaine pour sauvegarder la maison Van Horn a changé la donne dans le domaine de la protection du patrimoine. Quelques heures à peine après que les bulldozers se soient attaqués à la résidence, un groupe nommé « les Amis de la gare Windsor », qui était elle aussi menacée à ce moment-là, organisait une conférence de presse. Par le biais de leur porte-parole, l'organisation disait ne pas avoir l'intention de baisser les bras et voulait poursuivre l'effort d'éducation amorcé au cours des mois précédents. La campagne a été couronnée de succès, c'est ce qui fait qu'on a encore la magnifique gare Windsor au centre-ville de Montréal. Incidemment, le porte-parole de l'organisation n'était nul autre que Douglas Léopold, qu'on a connu dans les années 1980 comme animateur, vadrouilleur et chroniqueur jet-set à la radio et à la télé. Il a aussi été une des premières personnalités LGBTQ à être actif dans l'espace médiatique québécois. Moins d'un mois après la démolition, des groupes de citoyens soucieux, notamment, de préserver notre patrimoine se sont regroupés pour former Sauvons Montréal, qui a distribué ses prix Orange et Citron d'architecture pendant plusieurs années. Ça nous était toujours rapporté par les médias. Et on a bien vu que les gouvernants avaient été pris au dépourvu par la levée de boucliers dans le dossier de la maison Van Horn. On en avait déjà démoli tellement d'édifices comme celui-là, personne n'aurait pu s'attendre à un mouvement de masse semblable. Peu de temps après, non seulement le gouvernement du Québec a donné des outils aux villes pour retarder l'octroi de permis de démolition lorsque la situation l'exige, mais on a protégé 4 bâtiments situés tout près de feu la maison Van Horn qui dataient d'à peu près la même époque des assauts des promoteurs. Et Héritage Montréal, aujourd'hui l'organisme qui est au cœur de toutes les batailles pour sauver les édifices historiques de la cité, est né 2 ans plus tard. En somme, on peut dire qu'il y a vraiment eu un avant Maison Van Horn et un après Maison Van Horn dans le domaine de la préservation du patrimoine à Montréal et au Québec. On ne peut plus démolir des édifices d'intérêt aussi facilement qu'on le faisait à l'époque. Et ça se passait en septembre 1973.